Nous tissons la trame de l'histoire.
De quelques moments d'unité nationale. Tout le pays n'a pas également participé, mais tout de même, il y a eu près de 4 millions de marcheurs dans les villes et on ne compte pas les rassemblements devant les monuments aux morts dans les villages. Michelet écrit que les grands faits nationaux se sont accomplis ainsi, par des forces immenses et invisibles. En chaque lieu, c'est la même chose. Toute la France s'organise ensemble. Michelet disait cela de la fête de la Fédération de 1790. Elle succédait à de grandes peurs et de grands désordres. Nos moments d'unité nationale suivent souvent des périodes de dégoût. Celui d'hier ne fait pas exception. Le 7 janvier au matin, ici même, Michel Houellebecq disait encore « la mélancolie d'une société qui, fatiguée, fermait, pensait-il, la parenthèse des Lumières, de la République et de la laïcité ». Pourtant, certains instants de grâce, les Français se regardant dans les yeux des autres Français se voient comme un peuple aux pensées généreuses et aux vastes vouloirs et ils tiennent un discours d'universalité dont ils sont heureux d'entendre l'écho si on nous dit que nous ne sommes pas seuls, c'est qu'on nous aime encore et si les autres nous aiment encore, nous pourrions nous aimer un peu.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Avec Jean-François Sirinelli, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Grand historien de la France politique dont on ne compte pas, on ne compte plus depuis hier les livres. Vous allez nous parler du pays réel et en même temps du pays mental, parce que le pays mental, c'est important aussi.
Vous avez raison et vous avez raison de commencer par la fête de la Fédération parce que au moment où nous laissons Michelet, il y a quelques secondes, il est en train de nous narrer cette montée, si j'ose dire, vers Paris. Alors cette montée, c'est 45 000 gardes nationaux qui viennent des 83 départements nouvellement créés. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gardes nationaux, Michelet le disait, on les regarde passer. Et eux-mêmes regardent la France qu'ils traversent. Donc on voit très bien à travers ce récit qui correspond l'un dans l'autre, même s'il faut y rajouter le lyrisme d'un Michelet à une réalité historique, on voit très bien qu'il y a à la fois des jeux de regard, on les regarde, et des jeux de miroir, ils regardent la France qui les regarde passer.
Or, l'union qui marche vers l'union, dit Michelet, il n'y a point d'inconnu, nous sommes tous parents.
Tout à fait. Et une nation, souvent, ce sont des jeux de regard et ce sont des jeux de miroir. Simplement, ce qui est intéressant aussi, c'est que à travers cette France qu'il découvre, c'est aussi une leçon d'éducation nationale pour ce peuple en marche.
Ah, le peuple en marche, mais enfin, les gardes nationaux n'appartiennent pas à toutes les classes sociales. On a pu noter hier que certaines zones de France participaient moins que d'autres, certains groupes sociaux moins que d'autres. Les gardes nationaux, ce n'est pas le peuple.
Tout à fait. Théoriquement, les pauvres, pour reprendre une terminologie de l'époque, sont exclus de la composition, de la participation à ces gardes nationaux.
Alors, je vous propose de faire ainsi ce jour. Nous allons utiliser des citations marquante, que nous avons repéré grâce à une auditrice fidèle qui vient de mettre sur le net un opus grandiose, ça s'appelle l'histoire en citation, tout attaché, .fr. Il y a des icônes qui correspondent à autant de petits livres et des milliers de citations qui pleuvent. Celle-ci, par exemple, 14 juillet 1790.
C'est une conjuration pour l'unité de la France. Ces fédérations de provinces regardent toutes vers le centre. Toutes invoquent l'Assemblée nationale, se rattachent à elle, c'est-à-dire à l'unité. Toutes remercient Paris de son appel fraternel. Jules Michelet.
Je jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi. Je jure de demeurer unis à tous les Français par les liens indissolubles de la fraternité. Français, je vous demande, à vous tous qui êtes là, qui êtes venus de tous les départements de France, de prêter le même serment. Répétez après moi, je le jure. Peuple de France, je vous demande d'écouter en silence le serment que va prêter devant vous le roi des Français.
Moi, roi des Français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi.
Vive le roi !
Jean-François Bellemare dans le rôle de Louis XVI, roi des Français. Michelet disait que dans les vieilles églises, on était les uns derrière les autres et on regardait le prêtre qui nous tournait le dos. Là, on a aménagé le Champ de Mars de telle manière que les Parisiens eux-mêmes se regardent, le roi et l'Assemblée, étant au fond devant la façade de l'école militaire.
Oui, on vient d'entendre, si j'ose dire, Lafayette, hein, qui est donc le commandant de la garde nationale de Paris, et le roi, vous le disiez, joué par Bellemare. Et ce qui est intéressant, c'est que Lafayette prête serment à la nation, à la loi et au roi. N'oublions pas toujours ce diptyque, la nation et la loi, l'état de droit. C'est essentiel, mais vous parliez du lieu, car il y a des lieux qui, à certains moments, deviennent des lieux incarnés. Nous sommes au Champ de Mars, il y a cette sorte d'arène en ellipse, et il y a 200 000 Parisiens qui sont assis, qui sont face à face, en quelque sorte. Et nous retrouvons ces jeux de miroirs, ces jeux de regards, et c'est intéressant, c'est là encore, quelquefois comme ça, sans tomber dans l'emphase, bien évidemment, que se constituent des ciments. Les ciments, ils se constituent aussi souvent à travers des moments édifiants et qui, par là même, deviennent des moments structurants. Incontestablement, la fête de la Fédération en est un, dans la mesure où, quand presque un siècle plus tard, en 1880, on se posera la question d'une fête nationale, on songera à cette date, mais pardon Jean Lebrun, je vous
vois. Parce que, sans tomber dans l'emphase, je voulais rappeler un moment où Paris était déjà capitale du monde. C'est au lendemain de la fête de la Fédération. Il y a une délégation du genre humain, avec des députés du genre humain, dont Anna Karzis-Klotz qui se présente à l'Assemblée nationale.
Ben, dès ce moment, on vient de parler de la nation. Dès ce moment, vous avez aussi dans la conscience nationale ce balancement entre la nation et les valeurs universalistes qui vont rythmer, en quelque sorte, notre histoire nationale, précisément.
14 juillet, où je vous ai interrompu parce que vous étiez passé à 1889 dans les manuels d'histoire de la Troisième République, le 14 juillet 1910, la fête de la Fédération occupe dans l'imagerie la même place que la prise de la Bastille.
Absolument, il ne faut jamais oublier que pour les législateurs du début de la Troisième République, le 14 juillet 89 risquait un peu d'inquiéter une partie de l'opinion. Et celui de 1790 vient à la fois tempérer et donner encore plus de sens à la notion de 14 juillet. Et souvent, dans les manuels de l'école primaire de l'époque, on a tout autant que la représentation du 14 juillet 89, quand même, la prise de la Bastille, celle de la fête de la Fédération. On est à la croisée, en quelque sorte, de l'épopée, mais aussi de la nation et de la loi.
Dans la réserve qu'a constituée notre auditrice, Michel Récy, l'histoire en citation.fr, nous en puisons une autre qui concerne 1914, c'est le président de la République qui s'exprime, et on entendra ensuite le président du Conseil de 1916.
Dans la guerre qui s'engage, la France sera héroïquement défendue par tous ses fils dont rien ne brisera devant l'ennemi, l'union sacrée. Raymond Poincaré.
Messieurs, il faut que demain, nos délibérations terminées, les portes réouvertes au public, la France nous trouve unis. Si elle voit passer sur nous le grand frisson d'union sacrée qui fit si belle les séances du début de la guerre, soyez sûrs que d'un bout à l'autre du pays, on criera « Bravo !» Soyez sûrs que le soldat sortant de sa tranchée vous dira à vous, mandataire du peuple, « Merci ! Vous nous avez donné un nouveau moyen de vaincre et vous avez augmenté notre confiance dans la victoire. »
Le président du Conseil de 1916, qui s'exprime devant l'Assemblée nationale en comité secret, en fait c'est Michel Favori dans le rôle d'Aristide Briand devant le public de France Inter au vieux Colombier, emploie le mot d'union sacrée qui est apparu en août 14, qui a été utilisé surtout à partir de l'automne 14.
Oui, on prête à Raymond Poincaré, à l'époque président de la République, la paternité en quelque sorte de cette union sacrée. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons entendu aussi en 1916 le président du Conseil, Briand. Et donc il y a ce balancement en quelque sorte entre les différentes sensibilités politiques. Je veux dire balancement, j'ai tort de dire balancement, c'est au contraire cette convergence. Tout à fait, cette aimantation, vous avez raison. Et ce qui est intéressant, c'est que de fait, il est des moments dans l'histoire nationale où tout converge en quelque sorte. Et là, bien évidemment, il y a ensuite la voix depuis la Suisse d'un Romain Rolland qui crie en disant « Attention, nous allons vers le grand massacre, attention, nous sommes dans le grand massacre ». Mais en même temps, il faut bien voir que cette union sacrée était une réelle convergence entre ceux qui mettaient en avant les valeurs de la nation qui depuis quelques décennies à l'époque s'est installée plutôt à droite du paysage politique, et ceux qui mettent en avant justement les valeurs universalistes qu'on évoquait tout à l'heure. Et cette union sacrée, on retrouve à nouveau la loi et la nation d'une certaine façon.
Enfin, à droite de l'échiquier politique, il est des catholiques qui ne sont toujours pas républicains. Certains ont suivi le pape Léon XIII au moment du ralliement. Mais on va voir là des gens de l'aristocratie du faubourg Saint-Germain qui n'ont jamais reçu les républicains, des châtelains de province, des dames du monde devenues infirmières, qui rallie au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui la fraternité républicaine. L'union sacrée, ça dépasse la République.
Tout à fait, Jean Lebrun. Tout à l'heure, on disait les moments édifiants peuvent devenir des moments structurants. Ils peuvent même devenir des moments cristallisants, c'est-à-dire des moments où on fait, j'allais dire, une piqûre de rappel historique. Et là, c'est vrai qu'il y avait eu depuis les années 90 du 19e siècle ce qu'on appelait le ralliement. Eh bien, le ralliement, d'une certaine façon, se termine. Il était encore imparfait, incomplet, le ralliement, j'allais dire, des catholiques à la République, là, il y a cette union sacrée, mais également l'inverse, c'est-à-dire un certain nombre d'anticléricaux qui disaient et qui proclamaient les curés sacerdotaux, et quand ils voient les aumôniers mourir aux côtés des soldats, il y a ce ralliement aussi et cette convergence, à nouveau toujours convergence.
Les royalistes n'appartiennent pas au premier cabinet de l'été 14. Il y a deux socialistes dans le premier cabinet d'Union sacrée. Et ensuite, on va parler plutôt à partir de 1915 d'Union nationale. Et il y a un socialiste, Albert Thomas, qui devient le troisième SFIO du cabinet. Alors lui, il a un rôle, non pas symbolique, mais absolument décisif. C'est lui qui s'occupe des questions d'armement, par qui tout passe. Et il va être là jusqu'en 1917, jusqu'à ce que ses camarades lui disent « Non, tu ne peux pas rester ».
Oui, c'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée. Elle ne commence à se fêler véritablement qu'à partir de 1917. C'est très complexe pour un homme de gauche attaché à des valeurs, attaché au pacifisme, que de faire, de participer à cet effort de défense nationale. Mais à un moment donné, cet effort subsume l'ensemble. Simplement, ensuite, ça laisse des traces. Ça laisse des traces au sens où...
Qu'est-ce que les socialistes disent après de ce qu'ils ont fait ?
Ben, ça va être très compliqué. D'abord, entre-temps, sur la gauche, en quelque sorte, de l'ASFIO, va naître à l'occasion et dans le chaudron de la guerre, va naître le Parti communiste. Donc il y aura une sorte de surenchère qui fera que les communistes reprocheront aux socialistes d'avoir été les complices et les acteurs du grand massacre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que beaucoup d'intellectuels, pas forcément communistes, mais pacifistes, dans l'entre-deux-guerres, vont ensuite contester, attaquer ces mots d'ordre de convergence. Vous voyez que les mots, ils sont toujours à localiser dans une période donnée, à mettre en contexte, comme disent les historiens, et les mots sont fragiles. Et derrière les mots, les unités sont fragiles, et notamment les unités nationales.
Nous allons passer maintenant à la Deuxième Guerre mondiale. Ce n'est pas sûr que ce qu'on va entendre maintenant aurait pu être écrit en 1940, quand les communistes et les premiers catholiques de la France libre, par exemple, n'étaient pas sur la même longueur d'onde.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats, lequel montait à l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, tous les deux étaient fidèles, des lèvres, du cœur, des bras, et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompa. Et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Il coule et se mêle à la terre qu'il aima, pour qu'à la saison nouvelle mûrisse un raisin muscat.
Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'un court et l'autre a des ailes, de Bretagne ou du Jura, et framboise ou mirabelle, le grillon rechantera, dite flûte ou violoncelle, le double amour qui brûla, l'alouette et l'hirondelle,
la rose et le réséda.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le poème d'Aragon était interprété par le groupe La Tordue. Avant que la rose et le réséda puissent aller ensemble, il a fallu que le vieux roc soit submergé, que le rassemblement doloriste du maréchal Pétain exclue une partie de la nation, que la résistance qui veut que le pays soit uni mais en même temps vengé passe par beaucoup d'étapes pour accepter d'être fédéré.
Oui, là nous sommes en face, bon, vous l'avez dit, la rose et le réséda, à travers les couleurs bien évidemment, c'est une façon pour un poète d'exprimer l'union nationale, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, la Bretagne et le Jura. En même temps, à l'époque, il n'y a pas union nationale. Là, ce lyrisme douloureux d'un poète qui s'exprime aussi officiellement, mais là nous sommes dans du poème clandestin et j'allais dire presque dans une poésie des catacombes. Donc effectivement, ça n'est pas le signe à ce moment-là de l'union nationale, mais d'une certaine forme de sentiment national qui est dans l'épreuve et dans la clandestinité.
On était au bord de l'échec, la France combattante, dit le général de Gaulle dans un discours à Casablanca en août 1943, a littéralement joué la dernière chance de la patrie. Dernière citation, le général dans ce discours, puis le général un an plus tard au moment de la libération de Paris à Notre-Dame.
L'union nationale ne peut se faire et ne peut durer que si l'État sait distinguer les bons serviteurs et punir les criminels. Charles de Gaulle.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici un reportage particulièrement émouvant qui nous a été transmis à 16h15 depuis Notre-Dame de Paris. Les Allemands et leur cinquième colonne, trahissant une fois de plus leur parole, ont repris le feu au cours de la cérémonie. Au moment où nous avons eu la disposition de la ligne, les premiers coups de feu venaient d'éclater.
Le calme est à peu près rétabli. Et les braves soldats du général Leclerc sur le parvis qui vont, je l'espère, disperser tous ces salopards. Vous entendez d'ailleurs les gens qui applaudissent. Le général de Gaulle fait son entrée. Il relève les chaises. Il a échappé miraculeusement à cet attentat. Le général de Gaulle, très calme, malgré les coups de feu, malgré les coups de pétard, avance vers le cœur. Il se tient droit sous la mitraille, il est vraiment magnifique.
Juste une remarque, ça se passe à Notre-Dame, dont les cloches ont sonné le glas pour les morts de Charlie Hebdo, alors que le jour de ce tédéum, le cardinal archevêque Suard avait été consigné dans sa chambre pour le comportement qu'il avait pu avoir à la fin de l'occupation. Jean-François Sirinelli.
Tout autant que le tédéum à Notre-Dame, ce qui est important, peut-être plus encore important par rapport au sujet qui nous importe aujourd'hui, c'est la descente des Champs-Élysées par le général de Gaulle. Nous sommes dans la même séquence historique. Le général de Gaulle a eu cette expression extraordinaire pour en rendre compte, cette mer, M-E-R, c'est-à-dire que là, à nouveau, nous sommes dans un moment d'unanimité nationale, avec un souci quand même pour l'historien que je suis. Un certain nombre d'historiens disent qu'une partie des gens qui assistaient à cette descente et qui ovationnaient le général de Gaulle étaient venus applaudir le maréchal Pétain au mois de mars précédent.
Oui, mais ils étaient venus applaudir le drapeau tricolore qui jamais n'avait été hissé depuis l'occupation.
Tout à fait, et revenons à l'essentiel, c'est-à-dire nous sommes là en face peut-être d'un des moments les plus chimiquement purs de réunion, en quelque sorte nationale, mais toujours dans un moment donné qui est l'épreuve. Là, l'épreuve avec le soulagement de la libération, mais l'épreuve. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir que ce sentiment, quelquefois, se retrempe dans l'épreuve.
On a, à l'infini, hier, comparé les foules réunies à travers la France à celles de la libération. Si, en nombre absolu de Français participants, la comparaison est valable, il y a de fortes différences, sûrement, selon vous.
Bah oui, de toute façon, on ne peut jamais comparer terme à terme. Je pense qu'il y a des moments dans l'histoire des peuples où on se retrempe. Dans l'épreuve, vous faites allusion au parcours d'hier, au parcours au pluriel dans les différentes villes de France. C'était aussi, un moment douloureux. On était là, de même que quand on enterre Victor Hugo, on dit « Vive Victor Hugo !» Autant que je suis Charlie, probablement, l'un des mots d'ordre possibles aurait pu être « Vive Charlie !» dans la mesure où le « vive », on comprend bien ce qu'il a à la fois de douloureux et de projection dans l'avenir.
La différence, c'est l'écho médiatique organisé tout à fait différemment, bien évidemment, aujourd'hui.
Absolument. Et s'il nous fallait conclure, et d'ailleurs je crois que le temps nous impose bientôt de le faire, je conclurai en ces termes. Je veux dire par là que nous avons parlé depuis 1789 et jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de sociétés qui sont d'abord pas trop travaillées en profondeur par l'imprimé, puis qui le sont à partir du 19e siècle. Mais n'oublions jamais qu'à partir de la seconde partie du 20e siècle, on est dans des sociétés travaillées en profondeur par l'image et par le son. Où on parlait tout à l'heure de jeu de regard et de jeu de miroir, c'est dans l'image et dans le son, et la nation se donne aussi à voir.
Puisque vous avez fait la péroraison, Jean-François Cirinelli, il me reste juste à rappeler l'histoireencitation.fr, on trouve ça sur notre site, s'il fonctionne. Et le générique de l'émission, Alexandre Chenet a la technique, la préparation, Frédéric Martin, Franck Olivard, la réalisation, Jacques Sigal.